RMC, After Espagne,
Nicolas Jamain.
Salut à toutes et à tous, bienvenidos a todos, bienvenue dans l'After Espagne, le podcast 100% foot espagnol d'RMC. Heureux de vous retrouver et merci de nous écouter toujours de plus en plus nombreux en audio, en podcast, en vidéo également sur YouTube ou sur Afterfoot TV et toutes les plateformes notamment. Rémi Dumont est à mes côtés, salut Rémi.
Salut Nico, ça va?
Ça va et toi, t'es en forme?
Ouais, surtout quand je te vois, tout le temps.
Est-ce que Edgar Grelot, j'apprécie. Est-ce que Edgar Grelot est en forme également? Il a vécu une folle soirée à Bernabéu il y a quelques heures. Salut Edgar.
Salut messieurs, ça va et vous?
Ça va très bien. C'est vrai qu'on aurait pu consacrer ce podcast à un Uruguayen du Real qui a mis un triplé.
À la semaine prochaine.
Mais nous, on aime le contre-pied.
Voilà.
Comme le joueur dont on va parler justement cette semaine. Un pur produit de la Ligue 1, international géorgien, Georges Mikotadze, élu meilleur joueur de Liga du mois de février. 6 mois après son arrivée, le voilà déjà récompensé par le championnat espagnol. Début très prometteur. A-t-il finalement fait le bon choix, même contraint de quitter Lyon, son club de cœur, pour l'Espagne? Jusqu'où peut-il aller? Peut-il viser plus haut encore, plus haut qu'un deuxième chapeau européen? On vous dit tout sur GM9.
Le roi.
Ouais, Georges Mikotadze, le roi Georges, le géorgien. Vous écoutez l'After Espagne, c'est parti. Et pour en parler, Rémi, tu as convié un homme qui l'a bien connu à ses débuts, joueur du patrimoine Ligue 1. Tu sais, quand on dit patrimoine Ligue 1, il y a des noms comme ça. Eh bien, celui-ci en fait partie.
Tireur de coup franc exceptionnel.
Bien sûr. Quelques vibrations à Saint-Symphorien notamment, mais pas que. Légende Messine, Grégory Promant est avec nous. Salut Greg.
Salut à tous.
Salut Greg.
Bon, pour ceux qui se demandent ce que tu deviens, je crois que c'est assez clair sur l'image, en tout cas, pour ceux qui regardent le podcast en vidéo. Entraîneur, co-entraîneur du Clermont Foot Auvergne, bien sûr, qui joue son maintien en Ligue 2, d'ailleurs. Tout va bien pour toi, ton expérience à Clermont, rapidement, Greg?
Ouais, ça va, tranquillement. On est là avec une équipe très jeune et on essaye de faire des belles choses. Pour l'instant, les jeunes répondent plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal pour l'instant, dans un bon club en plus, donc nickel.
Bon, tu as connu donc le jeune Georges Mikotadze, encore en formation à Metz, où il est arrivé en 2017, alors qu'il jouait dans la banlieue lyonnaise, à Saint-Priest. L'OL n'avait pas cru en lui au centre de formation. Est-ce que tu te souviens, toi, Grégory, la première fois que tu l'as vu, Georges Mikotadze, sur un terrain?
Oui, moi, je l'ai vu. En fait, moi, je suis arrivé l'année d'après. Je suis arrivé en 2018 à Metz. Je suis retourné, j'arrivais de Caen. Et j'avais vu son nom dans le listing qu'on m'avait donné, donc je ne connaissais pas le gamin, mais j'étais quand même venu voir des matchs l'année précédente en U19, donc là je l'ai vu jouer. Mais après, quand je suis arrivé à Metz, j'ai tout de suite vu un potentiel dans ce joueur et un talent. Malgré tout, je crois que si mes souvenirs sont bons, l'année avant que j'arrive, il a eu quelques soucis. Quelques soucis de jeu, quelques soucis un peu scolaires. Et bon, là, cette année-là, c'était un peu compliqué pour lui. Mais après, l'année, quand je suis arrivé, c'était plutôt bien. Il s'était remis dans le droit chemin et tout était nickel. Et j'ai pu découvrir un jeune talent. À ce moment-là, il jouait plutôt sur le côté gauche. Il n'était pas positionné en attaquant de pointe. Et voilà, j'ai fait 2 ans. Enfin, je l'avais 2 ans dans mon groupe. Et après, il est parti à Serein. Donc, on a bien travaillé pendant 2 ans. Je l'ai repositionné un peu dans l'axe aussi parce que quand on jouait à trois derrière, lui il était en attaque et puis ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, c'est un joueur qui est capable de jouer un peu partout.
C'est avec la réserve que tu l'avais dès 2018 à Metz, ouais. Grégory. Et quand tu parles de Serein, c'est parce qu'il est prêté 2 années d'affilée en Belgique, en D2 belge, où il termine meilleur buteur notamment. Avant de donner la parole à Rémi, je crois savoir que toi, tu allais souvent voir Fred Antonetti, qui était entraîneur de l'équipe première, pour lui dire mais prenez-le, donnez-lui quelques minutes à Georges Mikotadze. Mais Antonetti n'était pas fan du profil.
Ouais. Non, c'est pas exactement ça en fait, parce que je me permettrai jamais d'aller voir un entraîneur numéro 1 pour dire prenez-le. C'était dans l'ordre de réunion avec le directeur sportif qui était Philippe Gaillot à l'époque, où là, en plus, les professionnels, bon, un coup ça marchait, un coup ça marchait pas, mais bon, avec M. Antonetti, il y a eu des bonnes choses qui ont été faites. Et Philippe Gaillot une fois m'a dit mais on a trop de monde, on a trop d'attaquants, et je lui avais même dit mais mets-le arrière droit en séance, c'est pas grave. Mais le problème qu'il y avait avec nous c'était que en fait nous on avait deux groupes, on avait un groupe élite et un groupe espoir au centre de formation, qui veut dire que Georges à un moment donné il s'entraînait avec, donc lui il est né en 2000, il s'entraînait avec des 2002-2003. Et donc, il était au-dessus du lot. Mais quand on est au-dessus du lot, après, on ne progresse plus. Et moi, mon, mon objectif à moi était surtout que le gamin puisse continuer à progresser. Mais avec nous, il n'avait plus de concurrence, il n'avait plus d'adversité à son niveau avec nous. Donc là, il stagnait. Alors bon, un match, il faisait toujours des différences, il n'y a pas de souci, parce que la première année, c'était un gamin. La première année, c'était un des plus jeunes. La deuxième année, il faisait partie des plus anciens. Et donc voilà, l'objectif pour progresser est toujours de le mettre avec des gars qui sont plus forts que lui. Et donc là, à ce moment-là, plus fort que lui au centre de formation, ça n'existait pas. Donc ce qu'on voulait, nous, c'était qu'il aille avec les pros. On a un peu galéré, mais on a réussi à le faire. Après, est-ce que M. Antonetti était fan du profil ou pas, ça, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'après la deuxième année, donc on est monté la première année, on est monté la deuxième année avec la réserve, et la deuxième année, à chaque fois qu'on me demandait c'est qui le meilleur joueur, ben, c'était Georges Mikotadze, ça c'était sûr. Et même les coachs adverses disaient ça. C'est qui le numéro 7 ? Moi, je lui donnais toujours le numéro 7 à l'époque. C'est qui le numéro 7 ? Ben, c'est Georges Mikotadze. Et après, l'année d'après, en fin de saison, il me dit « Coach, on me propose d'aller à Seraing, qu'est-ce que je fais ? Vous en pensez quoi ?» Moi, je lui dis « Mais va à Seraing, tu vas jouer en Ligue 2 belge, alors que chez nous, tu vas faire la Nationale 2 française. Donc, va jouer à Seraing. » Et puis là, à Seraing, ça a très, très bien fonctionné en Ligue 2. Ils sont montés en Ligue 1. Il est revenu, il a fait la prépa avec Metz et il a fait un match contre Lille où il est rentré contre Lille dans les dernières minutes. Et puis après, il est retourné à Seraing en Ligue 1 belge. Ça s'est très bien passé aussi. Puis après, l'année d'après, il est revenu à Metz. Et puis après, on connaît son parcours. Quoi. On connaît son parcours.
Eh ben, son parcours, justement, maintenant, si on va au présent, c'est élu joueur du mois de février en Liga, notamment pour 5 matchs joués, 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Hein, 3 buts d'affilée contre l'Espagnol Barcelone, contre Etafé, contre l'Evente, pour lequel il a aussi fait sa passe décisive. Et surtout, cette saison, des buts contre le Real Madrid, notamment en Liga et en Ligue des Champions face à la Juventus. Est-ce que t'es surpris de le voir à ce niveau-là aujourd'hui ou pas du tout ?
Plus maintenant, c'est vrai que quand on l'a gamin, quand moi j'arrive, il est U19, on voit qu'il a un peu de talent, mais on se dit, bon, est-ce qu'il, jusqu'où il peut aller, on ne sait pas. L'année d'après, en National 3, quand il fait gagner tous les matchs, en tout cas c'est lui qui marquait, je ne dis pas que c'est grâce à lui qu'on est remonté, il n'y a pas que lui, il y a eu toute l'équipe qui a fait en sorte qu'on monte encore. Mais maintenant, je suis pas surpris parce que, ce qu'il a fait à Metz, ce qu'il a fait à Metz quand il est revenu aussi, ce qu'il a fait à Lyon, même s'il a eu un peu de mal au départ, mais ce qu'il a fait à Lyon. Mais non, là, je suis pas étonné parce que c'est un mec, déjà, c'est un super gars. La dernière fois, je lui ai envoyé un message pour qu'il m'envoie une vidéo pour un anniversaire. Dans les 10 minutes, j'avais la vidéo. Donc c'est pour vous dire, c'est un super gars. C'est quelqu'un qui aime travailler. C'est quelqu'un qui n'est pas très grand, mais... En même temps, il tombe jamais, donc on peut le bousculer. Il est toujours très très fort sur ses jambes. Il va assez vite et puis il est surtout très très à l'aise techniquement et avec les deux pieds. Donc je suis pas surpris de sa réussite. Mais je me demande même jusqu'où il peut aller parce que quand on voit certains grands clubs, on se dit que il pourrait faire du bien à certains très très grands clubs.
Tu penses à quel club,
c'est mon
par
avis,
exemple en Espagne, forcément, en France ou ailleurs?
Quand on regarde, si on prend l'Espagne, si on regarde par exemple, si on regarde Barcelone par exemple, si on prend que Barcelone, à droite et à gauche c'est top. Après Lewandowski, il est un peu sur la fin, même s'il fait encore de très belles choses. Et je pense que Georges, il pourrait aider ce club à faire de belles choses.
D'accord, ok. Ouais. Sa saison déjà, elle raconte aussi hein, ses stats quoi. C'est le meilleur buteur de Villarreal.
Ouais, alors il a pas marqué contre Barcelone pour le coup hein, mais il a marqué à 10 reprises déjà, donc c'est le meilleur buteur de Villarreal. Il a délivré 4 passes décisives, c'est le deuxième meilleur passeur de Villarreal cette saison, le 10e joueur en termes d'utilisation, mais il est décisif surtout toutes les 201 minutes, ce qui prouve bien qu'il s'est bien acclimaté à l'Espagne. Donc voilà, ce sont des stats qui sont quand même impressionnantes pour une première saison dans le championnat espagnol.
Edgar, qu'est-ce qu'on dit de lui à Villarreal quand il arrive fin de mercato été dernier pour plus de 30 millions d'euros, 31 millions d'euros. Comment on réagit là-bas? On se dit, mais c'est qui ce Georges Mikotadze?
Oui, c'est vrai que la plupart des supporters, évidemment, ne l'avaient pas encore vu jouer. Et il arrivait avec une certaine pression, le fait d'être la recrue la plus chère de l'histoire du club. Mais la particularité, c'est qu'à la fois, il avait cette pression d'être une recrue onéreuse, Mais en même temps, Marcelino, l'entraîneur, lui, il ne fait pas dans les statuts. Donc, c'est-à-dire que tu aies coûté 35 millions ou 1 euro, il s'en fiche. Donc, il y a beaucoup de turnover, surtout sur le début de saison. Il a réussi avec le temps à s'imposer. Et je pense que maintenant, il est très apprécié par les supporters. Déjà parce que l'Espagne, c'est le pays de la technique. Donc, le profil de Georges, c'est typiquement le profil que les Espagnols aiment bien, un attaquant technique. Encore, il y a quelques semaines, il a mis un but où il fait tomber le défenseur avec une fin de frappe magnifique. C'est typiquement le type de joueur que les Espagnols aiment bien. Il a été très bon aussi dans sa communication, en faisant des publications sur les réseaux sociaux en valencien, des petites choses qui peuvent paraître anodines, mais qui te permettent de rentrer un petit peu plus vite dans le cœur des supporters. Et sincèrement, il l'a très, très bien géré. Il a réussi en plus à s'imposer dans un effectif ultra concurrentiel. Et c'est peut-être sa plus grande réussite cette saison, c'est d'avoir réussi vraiment à devenir un titulaire indiscutable de Marcelino.
C'est le cas depuis plusieurs mois maintenant. 10 fois titulaire sur les 11 derniers matchs de Liga. Marcelino l'adore, ça y est, hein, c'est lui l'attaquant numéro 1 de Villarreal. Il n'est pas du genre en plus à prendre son temps. Lui, quand il arrive dans une nouvelle équipe, Rémi, il s'impose direct, il plante tout de suite, quoi.
Alors, on a regardé justement le nombre de matchs qu'il mettait pour marquer ses premiers buts avec ses nouvelles équipes. Et ben, il lui faut pas beaucoup de temps, puisque à Serein, il a marqué pour son premier match. C'était pareil avec Metz, notamment en Ligue 2. En Ligue 1, c'était au bout de deux matchs. Avec Lyon, par contre, c'était un petit peu plus compliqué, puisqu'il a dit 9 matchs à marquer. En revanche, avec Villarreal, c'était au bout de deux rencontres. Et avec la Géorgie, puisqu'il est international géorgien, pareil, au niveau international, seulement 2 petits matchs pour marquer son premier but en sélection.
Bon, on n'a pas mis l'Ajax, hein, parce que c'était bref et raté comme surtout expérience. Il n'a pas marqué surtout. Grégory, elle dit quoi cette stat pour toi? Parle-nous de l'homme et de son caractère également, ça qui nous intéresse. Tu l'as connu à 19 ans. Je ne pense pas qu'il ait changé radicalement non plus. Est-ce qu'il était déjà un peu différent? Est-ce qu'il savait précisément où il voulait aller, Miko Tazé, quand tu l'as croisé, toi?
Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui ne doute pas de lui. On l'a vu à Lyon, quand il est arrivé, c'était pas simple. Mais malgré tout, il a réussi à faire des choses bien et puis à remettre l'église au milieu du village, je dirais. C'est quelqu'un de très humble. C'est quelqu'un qui a le cœur sur la main et qui a une grosse envie de travailler et surtout de réussir. Donc voilà. Après, je pense que son papa lui fait du bien parce que pour ses parents, il irait au bout du monde. Je ne connais pas trop ses parents, mais je les connais juste un petit peu. Mais je sais que lui, il est très attaché à ses parents. Et je pense que tout ce qu'il fait là, c'est aussi pour rendre très, très fiers ses parents. Et donc, rien peut se mettre devant lui pour obtenir un objectif.
C'est le fils aîné d'une famille de 3 enfants avec ses parents très proches. Effectivement, il l'a souvent raconté. On parlera de ses origines géorgiennes également. Il est hyper attaché à son pays, à son autre pays, dont il porte les couleurs en sélection où il allait tout gamin tous les étés en vacances. Vous restez avec nous dans un instant. On continue de parler de Georges Mikotadze, bien sûr. Pas mal de stats à vous donner aussi. Edgar nous dira si lui est d'accord avec Greg Proman. Est-ce qu'au Barça, c'est pas une possibilité? Pourquoi pas, Georges Mikotadze, on va en débattre ensemble. Reste avec nous, c'est le podcast After Espagne. Vous écoutez ou vous regardez l'After Espagne avec Rémi Dumont, Edgar Grollo, correspondant à Madrid, et Grégory Proman, ancien coach chez les jeunes de Georges Mikotadze. On consacre cet épisode à l'international géorgien. Je voulais qu'on voit un truc quand même, parce que ce garçon-là, partout où il passe, on l'a vu, il s'impose. Sauf à l'Ajax, encore une fois, c'était un raté, hein, tactique avec le coach également. C'est arrivé, ça a duré quelques mois seulement avant de revenir en France. Ses performances sont quand même sidérantes, hein, pour ce joueur-là, qui a surtout brillé pour l'instant en Ligue 2 pour choper un trophée de meilleur buteur, quoi.
On va dire qu'il marque des buts et il marque aussi les esprits, puisqu'il a terminé meilleur buteur lors de la saison 2020-2021 en D2 belge, donc à Serein, avec 19 buts. Il terminera meilleur buteur de Ligue 2 la saison, deux saisons plus tard, en 2022-2023, avec 23 buts, ce qui permettra évidemment à Metz de monter. Il sera aussi élu joueur de Ligue 2 la même saison. Et enfin, à l'Euro 2024, donc avec la Géorgie, il termine co-meilleur buteur avec 3 buts, hein. C'était sa première vraie compétition en sélection. Grégory, forcément, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment il se gère, Georges Mikotadze, quand on est entraîneur? Est-ce qu'il faut le challenger? Est-ce qu'il faut le piquer? Est-ce qu'il faut le couver?
Je pense qu'il y a un peu des trois. Le piquer, de temps en temps, ça lui fait du bien, parce que surtout moi, à l'époque, comme je l'expliquais tout à l'heure, il s'entraînait avec des plus jeunes, donc il était plus fort qu'eux. Donc des fois, il faisait des choses et des contrôles qui servaient à rien, enfin des choses un peu à la Neymar ou autre. Et là, je l'ai piqué 2-3 fois sur... dans ce sens-là, pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses à ne pas faire. Après, c'est un gamin qui est très attachant. C'est un gamin qui a tout fait à l'époque pour progresser. Et d'ailleurs, j'ai l'anecdote là-dessus. Moi, les pros, ils me disaient, ouais, mais Georges, il est très bon, mais il défend pas assez. Et j'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, j'ai pris Georges, j'ai dit, écoute, puisque tu veux pas défendre ou que tu défends pas assez, ben, je vais te mettre piston gauche. Et puis, tu vas être obligé de faire des allers-retours et tout ça. Et lui, direct, ouais, pas de problème, je le fais, aucun souci. Je l'ai fait qu'un match, hein, parce qu'après, ça, je me mettais une balle dans le pied aussi, si je faisais ça, parce qu'il me marquait des buts. Donc, j'ai fait qu'un match pour qu'il comprenne qu'il fallait qu'il défende. Et il a très bien fait son rôle, il a très bien joué. Et puis enfin, voilà, après, Georges, on peut le mettre n'importe quel poste, il va être très bon, il n'y a aucun souci. Mais c'est un gamin qui est très attachant et avec qui on a envie de. Enfin, c'est une personne qu'on a envie de vraiment aider et d'amener au plus haut niveau, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a réussi un peu à faire, l'ensemble du centre de formation, des coachs de Metz qui l'ont eu. Et avec les dirigeants de Metz, qu'on réussit à faire des belles choses. Et de Serein, bien sûr, j'ai pas oublié Serein.
Edgar, comment il est apprécié, perçu en Liga aujourd'hui? Est-ce que c'est un joueur que tu peux voir parfois en une des médias espagnols ou pas encore? Il est encore relativement pas inconnu parce que il est le leader numéro un offensif du quatrième de Liga. Est-ce qu'il devient populaire en Espagne?
Alors, comme l'a dit Rémi, il a marqué dans des matchs qui ont été beaucoup regardés, comme à Bernabéu, comme face à la Juventus en Ligue des Champions. Maintenant, Villarreal, c'est quand même un club qui est relativement sous-médiatisé par rapport à d'autres. C'est une petite ville, c'est pas un club qui a des supporters à travers l'Espagne. Donc forcément, il y a un petit peu moins de médiatisation que s'il avait les mêmes performances, par exemple, que dans un club sévillan, par exemple. Hein. Mais c'est vraiment un attaquant respecté, comme on le disait, par rapport à son style de jeu aussi. C'est quelque chose qui plaît aux Espagnols. Et je pense qu'aujourd'hui, quand un club joue Villarreal, et bah, tout de suite, on coche le nom de Georges Mikel Cotadze comme un danger potentiel, et les supporters se disent, ok, s'il y a bien un joueur à surveiller, c'est Georges Mikel Cotadze.
T'as un maillot du Barça derrière toi, Edgar. Hein. J'ai ça pour ceux qui écoutent le podcast. Qu'est-ce que t'en penses de ce que dit Greg Proman? Est-ce que pour toi, le maillot serait à sa taille ou un peu trop grand un jour, peut-être?
Honnêtement, en termes de style de jeu, ça colle totalement. Ça colle totalement. Je pense que de manière générale, le style du championnat espagnol colle à Georges Mikel Cotadze, et encore plus le style de jeu historique du Barça. Et je pense que effectivement, il y a un petit manque cette saison au poste d'avant-centre, parce que tu as un Lewandowski qui arrive sur la fin, tu as un Ferran Torres qui est un petit peu trop maladroit toujours, et je pense qu'il techniquement est quand même moins bon que Georges, même si évidemment Ferran Torres a des statistiques exceptionnel cette saison. C'est un profil de jeu différent que Georges Mikel Cotadze. Est-ce qu'à l'avenir, Georges Mikel Cotadze pourrait être un profil qui pourrait intéresser le Barça, et est-ce qu'il pourrait coller? Moi, je pense que oui. Maintenant, évidemment, je pense que c'est bien aussi d'avoir eu cette étape, et d'avoir cette étape de Villarreal. On voit tous qu'il a le potentiel pour aller encore plus haut. Villarreal, c'est déjà un excellent club qui a joué la Ligue des Champions, même si ça s'est pas bien passé. Mais c'est un club qui joue l'Europe, qui bataille avec les meilleurs clubs d'Espagne. Donc, je pense que c'était un bon choix, même s'il aurait voulu que ça se termine autrement avec Lyon. C'était un bon choix pour lui. Il avait aussi ce rêve de jouer en Espagne. C'était un petit peu son autre rêve après avoir joué à Lyon, même si encore une fois, le timing, c'est pas comme ça qu'il l'aurait imaginé. Je pense qu'effectivement, à l'avenir, s'il continue sur cette lancée-là, s'il continue à progresser, s'il continue à être décisif avec Villarreal, on peut l'imaginer dans un autre très grand club espagnol.
Vous imaginez Laporta réélu qui annonce « Je fais signer Georges Mikel Cotadze au Barça ». Malheureusement, ce genre de club, peut-être moins valable au Barça qu'au Real, mais quand même, peut-être pas un nom assez ronflant pour les socios du Barça, pour le président, sa direction du Barça, quoi.
Bah, le problème, c'est peut-être sa nationalité aussi, parce que voilà, même si elle est en train d'éclore maintenant au niveau européen dans le foot, parce qu'il y a Kvaratskhelia, il y a lui maintenant, mais c'est vrai qu'il souffre peut-être d'un déficit médiatique parce que ses performances sont au rendez-vous, mais c'est vrai qu'il n'est pas beaucoup exposé dans les médias, il y gagnerait peut-être, parce que je pense que s'il était brésilien ou même espagnol, évidemment, on en parlerait beaucoup plus certainement.
Il y a un bulgare qui a fait les beaux jours du Barça il y a quelques années, hein, Risto Stoïkov notamment. Il n'y a pas de limite de nationalité, bien sûr. Quels sont ses axes de progression, Greg, à Georges Mikel Cotadze? Il ne va pas forcément gagner en vitesse, il ne va pas gagner en physique. Hein, c'est un joueur qui a un centre de gravité assez bas, qui a des super appuis. Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux encore, Mikel Cotadze, pour franchir ce cap et attirer le regard des plus grands clubs européens?
Bah, lui-même, je vois pas du tout ce qu'il pourrait faire de mieux, en fait, parce que il
Eh oui.
sait à peu près faire et plutôt très bien en plus. Je rejoins un peu maintenant, c'est surtout par rapport à son image et à son nom, mais ça, il va réussir à lever tous ses doutes. J'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu arrives de Metz, voilà, petit de France et en plus géorgien, c'est vrai que c'est pas très très c'est très très ronflant, mais je suis persuadé qu'il va réussir à. Et en plus, c'est un challenge pour lui. Il adore les challenges, donc il va réussir à lever ces petits doutes-là. Mais après, en termes de football, je vois pas ce qu'il pourrait faire de mieux, en fait.
Il est sous contrat jusqu'en 2031 avec Villarreal. Il a que 25 ans. Il est au cœur de sa carrière, Georges Mikotadze. Faut qu'on parle également de sa carte internationale. Oui. Parce qu'il a quand même une perf, tu disais tout à l'heure. Il a fini meilleur buteur du championnat d'Europe avec la Géorgie, quoi.
Avec la Géorgie, avec la sélection avec laquelle il compte déjà 41 matchs pour 21 buts marqués et 3 passes décisives. Hein. Les 21 buts, il y en a 3 qui étaient donc au championnat
d'Europe.
C'est énorme
hein, en termes de stats.
Ouais, c'est parce qu'en plus, il est jeune. Voilà, faut pas oublier, il a 25 ans. Donc, quand même, 41. Une sélection à 25 ans avec la Géorgie, avoir ces stats-là, c'est quand même pas donné à tout le monde parce que généralement, la Géorgie affronte des plus grosses équipes d'elle au classement européen, UEFA, et ce qui montre bien que c'est un renard, c'est un joueur ultra efficace, d'autant plus que si on regarde dans le classement historique des buteurs géorgiens, c'est là où on voit qu'il arrive vraiment très haut dans ce classement. Pourquoi ? Parce qu'il est deuxième, tout simplement, meilleur buteur de l'histoire de la Géorgie. Il y avait Shota Aveladze hein, avec 26 buts, il est à 5 petites unités, hein, Georges Mikotadze. Et il est deux devant, Jvicha Kvaratskhelia du PSG, ce qui montre bien à quel point il est performant et peut-être même sous-coté parce qu'évidemment Kvaratskhelia joue au PSG, donc il est beaucoup plus exposé. Mais on voit que ses stats sont dignes des plus grands.
Bon, et malheureusement, il ne vivra pas la Coupe du Monde aux États-Unis. Hein. La Géorgie a terminé troisième de son groupe derrière l'Espagne et la Turquie. 3 petits points, une seule victoire, c'est un peu la déception. Pensez pour Willy Sagnol, hein, oui. Qui profite du talent de Georges Mikotadze. À Villarreal, Edgar, quand même, il faut parler de ses coéquipiers qui l'aident à briller, même si ce n'est pas un joueur qui a forcément besoin tout le temps d'être associé. Il y a un Nicolas Pepe à droite, on en a déjà parlé dans un podcast After Espagne. Il n'est pas seul sur le plan offensif. Avec qui il est le plus complice sur le terrain, selon toi, Edgar?
Dans un monde idéal où tout le monde est en forme et n'est pas blessé et est au maximum de ses capacités, pour moi, la doublette qui marche bien, c'est avec Moreno. Maintenant, on connaît son âge, on connaît aussi les blessures qu'il a pu avoir, les gènes qu'il a pu avoir cette saison. Mais je pense aussi que, et comme on l'a dit, par rapport aux qualités techniques de Georges Mikotadze, il peut s'associer assez facilement avec tout le monde. Et comme je disais aussi, il y a beaucoup de turnover dans cette équipe. Marcelino aime bien tester différentes choses et changer énormément l'effectif. Et ça tourne, ça continue de tourner, même s'il y a eu des bémols cette saison, notamment la Coupe d'Europe et la Coupe d'Espagne. C'est une équipe qui finalement essaye vraiment d'imposer son jeu et de faire ce qu'elle a envie de faire, peu importe les joueurs sur la pelouse. Donc je pense que la force, comme on disait, de Georges Mikotadze, c'est d'être devenu un indiscutable dans cette équipe, ce qui est vraiment pas donné à tout le monde et ce qui était quand même compliqué quand on connaît la philosophie de Marcelino par rapport au statut dans une équipe.
Et Grégory, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas soulevé, c'est que il a un profil particulier. Il n'y en a pas beaucoup des profils comme le sien, hein, sur le plan offensif, en tout cas en numéro 9 ou sur un côté. Quoi.
Ouais, c'est bien ce profil-là, parce que c'est un profil pas très grand, mais qui tient sur ses jambes, qui est capable de, qui va très vite, qui est très bon techniquement. Et ça me permet en même temps, vous me permettez de me lancer dans un sujet qui est qu'on est souvent attiré par des grands costauds tout le temps. Et surtout en France, je dirais. Et quand on regarde ces pays-là, ou le Portugal, ou ces choses-là, quand on regarde les équipes nationales de l'Espagne, du Portugal, on voit qu'il y a des petits gabarits qui sont en capacité de faire de très, très jolies choses. Et Georges Mikotadze, il fait partie de ces gens-là. Et je pense que je suis content qu'ils réussissent parce que ça permet en même temps de dire que j'ai peut-être pas spécialement tort de penser ce que je pense par rapport à ce qu'on peut faire. Enfin, notre vision française, en tout cas, et la vision des gens qu'il faut faire 1m90 pour être attaquant ou pour être défenseur ou quoi. Lui, Georges, il démontre bien qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a d'autres qualités qui rentrent en ligne de compte et qui fonctionnent très, très bien. Donc, je pense que c'est un peu le porte-parole aussi de tous ces joueurs qui sont pas très grands. En même temps, il n'est pas petit. Hein. Il doit faire
1m76, il fait. 1m76,
exactement. Ouais, 76, ouais, comme moi. Donc voilà, mais ça montre que malgré tout, on a le football est ouvert à tout le monde. Et puis moi, je dis chapeau à l'Espagne, au Portugal qui prennent ce type de joueurs et qui en font des grands talents.
Il avait été recalé à Lyon, du centre de formation de Lyon, son club de cœur, là où il a grandi, parce qu'il faisait 1m40 à l'âge de 14 ans. Il a poussé d'un coup.
Ouais, et puis rappelez aussi qu'il débarque à Villarreal dans un contexte particulier, parce qu'il a dû faire face aussi au départ de Thierno Barry, le Français qui est parti à Everton, qui avait marqué beaucoup de buts la saison dernière. Donc il avait vraiment un poste et quelqu'un à faire oublier, ce qui fait parfaitement cette saison.
Voilà, Georges Mikotadze, on espère qu'il a passé la barre des 15 buts en Liga et pourquoi pas un peu plus, et on lui espère aussi une immense trajectoire, il a que 25 ans, pourquoi pas le FC Barcelone. Alors là franchement si ça arrive Greg, on te rappelle, tu viens, on paye le train, tu viens à Paris, on fait une émission ensemble, tu viens dans l'after en direct sur RMC.
Non, on ira directement
Barcelone. T'as raison. Bah, tu nous trouves une place et nous on t'accompagne. Avec plaisir. On te souhaite aussi un bon maintien hein, Greg, avec le Clermont Foot. On te souhaite le meilleur, bien sûr, et puis un jour aussi dans ta carrière, peut-être de monter avec Clermont et d'entraîner au plus haut niveau, et pourquoi pas à Metz ou ailleurs.
De retrouver comme Mikotadze à Barcelone.
À Lyon, plus simplement.
J'allais dire, j'ai un scoop, j'irai sûrement pas à Barcelone, moi, mais bon, puisque on a dit ça.
Je pense que
Barcelone, c'est beaucoup trop haut pour moi.
Tu sais pas, Grégory, tu sais pas.
Peut-être pour laver les maillots, faire un portage, des choses comme ça.
Quand même pas. En tout cas, merci hein, d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce que tu as fait en Ligue 1, notamment. Greg, on s'est régalé. Des profils comme le tien aussi, il en manque aujourd'hui, hein, attaché à un club, notamment. Merci, voilà, Grégory.
Merci, les gars. Merci à vous. C'était un plaisir.
Merci Edgar. On fait quoi semaine prochaine?
Du Valverde.
Allez. On va raconter l'histoire de Valverde hein, avec le Real, notamment, auteur d'un triplé époustouflant en Ligue des Champions. Merci Edgar, merci Rémi, merci à tout le monde également.
Merci Nico.
À ceux qui ont préparé ce podcast avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.
RMC After Espagne.